Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. On l'a attendu des années ce casque de réalité mixte, alors c'est quoi, quelques semaines de plus ou de moins? Il semblerait que la présentation de cet appareil, qui était prévue pour la WWDC, pourrait finalement ne pas avoir lieu à la date espérée. En deuxième partie d'émission, puisque c'est vendredi et que le week-end s'approche enfin à grands pas, il est temps pour nous de faire le point sur les actus des derniers jours avec Christophe dans le replay de la semaine. Et il s'en est passé des trucs. Rendez-vous après le flash info. Nous sommes le vendredi 31 mars. Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Oups! Et si le casque de réalité mixte qu'on nous promet depuis des mois pour la WWDC n'était finalement pas présenté en juin? C'est Ming-Chi Kuo, l'apprenti de Madame Irma et de Nostradamus, qui a annoncé la mauvaise nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle potentielle puisqu'il s'agit d'une rumeur. Apple pourrait en effet repousser le dévoilement du Reality Pro, comme il devrait s'appeler. L'analyste dit aussi qu'il y aurait des soucis de production. Elle serait reportée d'un à deux mois, c'est-à-dire plutôt à la fin du troisième trimestre. Présenter une nouveauté des mois avant sa commercialisation ne fait pas peur à Apple. Après tout, c'est ce qui s'était passé avec l'Apple Watch. Ça laisse le temps aux développeurs de créer des applications qui vont bien, et a priori, ce sera nécessaire pour le casque. Ming-Chi Kuo rapporte aussi des interrogations en interne. On s'en est fait l'écho ici même à plusieurs reprises. Apple serait préoccupé par la situation économique pas brillante par rapport à un produit qui pourrait quand même coûter entre 3000 et 4000 dollars. Il y a aussi la question des compromis qu'a dû faire le constructeur sur certaines caractéristiques du casque, comme pour le poids par exemple. On va de toute façon y revenir dans le replay de la semaine avec Christophe, restez donc à l'écoute. Le chiffre du jour, en fait, c'est plusieurs chiffres entre 1 et 5. Dans notre dernier sondage, on vous demandait combien d'écrans verrouillés vous aviez et 47% d'entre vous, vous en avez entre 1 et 5 sur votre iPhone. Cette grosse nouveauté d'iOS 16 permet, comme vous le savez, de créer des écrans verrouillés avec des widgets et toutes sortes d'effets sur le fond d'écran. Et il y a pas mal d'utilisateurs qui ont embrassé toutes ces possibilités de personnalisation. La preuve, vous êtes quand même 2% à avoir quelques dizaines d'écrans verrouillés en stock. C'est sûrement histoire de ne jamais être pris au dépourvu, comme ça on peut changer rapidement d'écran en fonction de toutes les situations ou presque. Bon, en fait, la plupart d'entre vous est assez raisonnable, puisque 37% des répondants ont dit qu'ils n'avaient qu'un seul écran verrouillé. Il faut dire aussi qu'Apple n'a pas vraiment aidé, il faut vraiment aimer plonger dans les réglages pour créer un écran verrouillé personnalisé. Que vous en ayez un seul ou des centaines, vous pouvez toujours répondre et réagir à notre sondage. Il fallait bien s'y attendre, taper la discute avec un bot d'intelligence artificielle n'allait pas rester gratuit très longtemps. Microsoft a confirmé qu'il cherchait à placer de la publicité dans les réponses de Bing. Autrement dit, on devrait assez rapidement voir apparaître des bandeaux de pub quand on demande un truc au bot du moteur de recherche. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI et l'éditeur est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle partout dans ses services et ses logiciels. La question de la rentabilité allait forcément se poser à un moment ou à un autre, et ça ne fait pas de doute que chez Google aussi cette question va se poser tôt ou tard. Il reste à voir pas mal de détails, comme par exemple le volume des publicités. Néanmoins, les bandeaux seront séparés des résultats du bot, et il n'est pas question que la réclame s'insère dans le contenu généré par Bing. Enfin, pas pour l'instant. Netflix, ce n'est pas que des films ou des séries télé, c'est aussi des jeux. Et le catalogue commence à devenir assez intéressant, suffisamment en tout cas pour faire pas mal d'ombre à celui d'Apple Arcade. Pour le moment, ces jeux sont disponibles sur les plateformes mobiles, mais à terme, Netflix voudrait aussi les proposer directement sur les téléviseurs, ce qui a du sens pour le service de streaming. Mais voilà, bien souvent le stockage disponible est trop limité dans les téléviseurs connectés et dans les box. Du coup, on devrait jouer en streaming. Et il y a aussi la question de la manette. Là aussi, Netflix a trouvé une parade. Si une manette n'est pas connectée au téléviseur, le service proposera de jouer avec un smartphone. Ce n'est pas aussi bien qu'un vrai contrôleur avec des boutons et tout, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, deuxième actu, Netflix pour le prix d'une aujourd'hui. Car Netflix, ce n'est pas que des jeux, c'est aussi des films et des séries télé. Et l'accès au catalogue est un peu moins cher depuis la fin de l'année dernière avec le lancement de l'abonnement avec publicité à 5,99€ par mois. Seul problème, cette formule n'était pas disponible sur l'Apple TV, enfin c'était le cas jusqu'à très récemment. L'affront est maintenant réparé, Netflix a ouvert les vannes et les abonnés ont bien droit à de la pub sur leur grande télé comme Dame Nature l'a exigé. Il y a des semaines plus calmes que d'autres et ça n'a pas du tout été le cas de celle qui vient de s'achever. Apple est passé à la vitesse supérieure avec pas mal d'annonces sur lesquelles on va revenir ce matin en compagnie de Christophe pour le replay de la semaine. Salut Christophe!
Salut Mickaël, bonjour à tous!
La grosse annonce de la semaine, c'est évidemment celle de la WWDC, le grand rendez-vous annuel des développeurs Apple. Alors, pas de surprise sur les dates, ça aura lieu du 5 juin au 9 juin, en majorité en virtuel. Il y aura une journée spéciale à l'Apple Park le 5 juin, comme l'an dernier. Ça y est, le pli est pris, Apple a trouvé la bonne formule pour la WWDC.
Aucune idée là-dessus. Disons qu'en 2023, à mon avis, ça reste le meilleur format possible. Mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure WWDC qu'on puisse imaginer. Est-ce qu'on aura un retour à une version plus hybride dans les années à venir, avec beaucoup de monde à Cupertino ? Nul ne le sait. Le présentiel, c'est quand même une sacrée opportunité pour les gens qui se rendaient sur place, pour le réseautage, pour la petite info technique que tu grattais ici ou là. Et puis, la WWDC, c'était aussi une semaine de fête pour les développeurs, de nombreux événements informels, des soirées, des concerts, des conférences annexes. C'était vraiment un endroit bouillonnant. Et c'est une expérience qui n'est pas reproductible en ligne, même dans le métaverse de Mark Zuckerberg, on n'y arrive pas.
Et allez, une balle perdue.
Non. Mais c'est pour ça que je pense que malgré tout, enfin, peut-être que je suis vieux con, hein, mais peut-être qu'on reviendra quand même tôt ou tard à quelque chose de plus classique. Ça avait vraiment des avantages pour tout le monde. Ça permettait aussi à tout l'écosystème Apple de se réunir, d'accélérer certaines choses, des contrats. Et pour Apple, par exemple, ça permettait aussi d'avoir des regards sur les petits nouveaux développeurs, voir si on peut embaucher telle ou telle personne. C'était vraiment un endroit très très riche. Et quand on discutait des développeurs aux développeurs de la WWDC, bon, ils parlaient du keynote parce que fatalement c'est quand même le gros événement. Mais les conférences sur un sujet précis, ils en parlaient pas plus que ça. C'était vraiment les à côté de la WWDC que la plupart des développeurs aimaient bien.
Par contre, le format keynote en mode publicité géante.
Non. Et puis alors, moi, je ne comprends pas les journalistes qui traversent la moitié de la planète pour voir ça. C'est un non-sens absolu.
Alors, revenons un peu en détail sur ce qui nous attend. Et évidemment, tout le monde attend le casque de réalité mixte de pied ferme. Sauf que finalement, non. Ming-Chi Kuo a émis des doutes sur la présentation du casque et pour la production de masse.
Il n'y a pas des attentes démesurées de la part du grand public pour ce casque.
Oui. C'est vrai.
Mais c'est une certitude. Mais on a tellement compris que sa présentation était pour cette année qu'il est dur de penser que ça ne sera pas le cas et que ça ne sera pas pendant la WWDC. Ouais. Car dans un premier temps, il faut présenter le produit au premier intéressé. Ce sont les développeurs qui devraient, en théorie, produire des killer apps pour ce produit-là. Enfin, ça, c'est dans un scénario idéal. Alors, si ça n'a pas lieu à la WWDC... avec le planning toujours très serré d'Apple, quand est-ce que ça aura lieu? Parce qu'après, on est un petit peu dans le tunnel d'Apple avec en septembre les nouveaux iPods, en octobre souvent de nouveaux Mac ou de nouveaux iPads. Ça nous ramènerait à la fin d'année. Alors peut-être une présentation toute fin d'année. Peut-être, j'en sais rien. Mais après, il y a une chose, alors c'est vrai qu'on entend qu'en interne, le produit d'Apple ferait pas l'unanimité. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'un report de la présentation, Apple s'est amusé à le présenter en interne. Oui, donc c'est qu'on arrive quand même à quelque chose d'assez concret. Mais il faut pas oublier qu'Apple est largement capable d'annuler un produit, un service à la dernière minute. Ils l'ont déjà fait par le passé et ils sont largement capables de le faire à nouveau.
Alors, pour le reste, en dehors du casque, c'est un peu le calme plat. On a eu très peu de rumeurs sur iOS 17, sur macOS 14 ou watchOS 10. Et on est à 2 mois de la première bêta.
Oui, à 2 mois qu'on a assez peu d'infos, c'est assez normal. Le secret est toujours plus facile à préserver quand c'est du logiciel. Après, bon, c'est certain que chaque système d'exploitation a ses objectifs et problématiques du moment. Alors, je vais faire un pot commun pour iOS et iPadOS. Moi, j'attends, par exemple, de voir des fonctionnalités qui tirent vraiment profit de la puissance des iPad Pro et de leur puce M2. Enfin, voilà, je veux dire, tiens, ah oui, peut-être que ça vaudrait vraiment le coup d'acheter un iPad. On voit rien pour le moment. Et puis, il y avait aussi, par exemple, pour l'iPad, tout ce discours qu'il allait détrôner le Mac. Apple, l'année dernière, a remis un petit coup avec Stage Manager, mais on n'a pas l'impression que ça a finalement convaincu grand monde. Alors, est-ce que, par exemple, Apple va donner de nouveaux arguments au camp du tout iPad? À voir. Voilà, Pour macOS, c'est toujours compliqué. Moi, j'aimerais que personnellement que les applications retrouvent un peu de personnalité, parce qu'on a toujours l'impression d'utiliser des pâles copies d'applications iPad.
Ouais.
Je ne crois pas que ce soit la direction du moment. Mais bon, on verra bien. Mais bon, justement, c'est aussi à ça que sert une conférence des développeurs.
Ouais.
Peut-être qu'avec des évolutions de SwiftUI, Apple et les développeurs seront capables de faire plus facilement des applications qui exploitent mieux chaque plateforme. Et puis un petit mot pour WatchOS. L'année dernière, la montre d'Apple s'est mise au sport de manière sérieuse.
Oui.
Donc voilà, on espère que ça va continuer cette année. Mais après, bon, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y a une ligne directrice qui unit toutes les évolutions des différents systèmes. Et évidemment, on est impatient de voir quelle sera cette ligne et de voir si Apple a accéléré ou si justement elle a été un peu pénalisée par le développement de la plateforme logicielle de son fameux casque.
Ouais. Et alors je note quand même que tu n'as pas parlé de tvOS. Alors on s'en fout de tvOS.
Bah, c'est que maintenant qu'on pourra bien... On sait que bientôt on pourra regarder 4 flux en simultané. Donc moi je ne sais pas quoi demander de plus, très honnêtement.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends plus particulièrement de la WWDC cette année dont on n'a pas encore parlé ?
Bah, d'un point de vue logiciel, voilà, la grande tendance du moment, c'est l'intelligence artificielle.
Ouais.
Alors, je ne m'attends pas forcément à ce qu'Apple insère un chat GPT au cœur de son système d'exploitation. Ouais. Ceci dit, il est par exemple intéressant de voir ce que font les concurrents d'Apple, par exemple, avec les traitements de texte et chat GPT. Et ça, ça va devenir un sujet pour Apple tôt ou tard.
Oui, tout à fait.
Mais... Pour en revenir voilà, à l'intelligence artificielle, moi j'espère surtout des fonctionnalités qui rendent nos machines moins bêtes et qui nous fassent tous gagner du temps. Je reviens un an en arrière, par exemple, le copier-coller dans les images qu'on peut faire avec la reconnaissance optique de caractère, aujourd'hui ça nous paraît complètement normal, et mais quand on y réfléchit, moi il y a des fois où ça m'a fait gagner un temps fou.
Mais oui.
Donc voilà, donc c'était très bien ça par exemple. Alors, si Apple ne présente pas de casque, par curiosité, alors je sais que la WWDC, normalement, c'est pas un événement, enfin, ça n'a pas toujours été un événement où on présente du matériel et Apple s'en est vanté à certains moments.
Ouais.
Mais, quitte à ce qu'il n'y ait pas de casque, moi je serais assez curieux que Apple nous présente le Mac Pro. Là aussi, je suis pas client, mais je suis curieux de voir les choix techniques d'Apple. Ouais. Et finalement, présenter le Mac Pro à des développeurs, ça fait sens, comme les Anglais disent.
Alors, la semaine a aussi été marquée par le lancement, finalement, d'Apple Music Classical, qui était attendu en 2022. L'application de streaming de musique classique a le mérite d'exister, parce que c'est un genre très niche, mais même si tout n'est pas parfait. Est-ce que c'est un pari réussi, selon toi ?
Comme vous le savez, je suis un grand expert de la musique classique. J'ai passé
c'est pour
mon
ça que
diplôme,
je te demande.
J'ai passé mon diplôme dans la nuit. non, mais j'ai une testeuse à la maison qui, elle, est beaucoup plus pointue que moi. Hein.
Ouais.
Et elle est très contente.
Ah.
Son grand jeu, à chaque fois que je présentais un service de streaming, c'était de mettre en défaut le catalogue par rapport à la musique classique.
Et, c'est pervers, ça.
Et évidemment, tu tapais n'importe quel... artiste un petit peu, enfin, ou compositeur un peu célèbre, et une fois sur quatre, tu avais un morceau qui appartenait à une bande originale de film, ou genre de truc. C'est vrai que c'était pas du tout sérieux.
Ouais.
Et là, Apple Music Classical a passé avec succès tous ses tests, elle était étonnée, elle m'a dit, mais c'est vraiment un truc d'américain, ce truc-là? Elle a retrouvé sa compositrice du 18e siècle lyonnaise, enfin bref. Je passe les détails. De ce qu'on me dit, c'est plutôt bien. Et puis alors, je suis un petit peu choqué, là. Moi, je pense que l'absence de l'iPad, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Ouais.
Alors, je m'explique. Hein. Ouais. Ça veut dire que... Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'Apple est en train de redévelopper de fond en comble ses apps de musique, à la fois pour l'iPad... Et comme vous le savez, quand Apple développe une application pour iPad, elle la développe également pour le Mac.
Ouais.
Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait quelque chose d'assez sexy, et à la fois pour l'application musique, et à la fois pour l'application Apple Music Classical sur Mac d'ici quelques mois.
Ouais.
On peut toujours rêver, c'est vendredi, pourquoi pas. Après, autant il y a des services où Apple ne propose pas grand-chose d'intéressant, où je trouve que la valeur ajoutée est... particulièrement faible. Mmh. Autant dans la musique, il faut être quand même, enfin, il faut reconnaître qu'elle a une offre qui est originale et complète. Oui. Il faut quand même que rappeler que ce service, ce nouveau service est disponible sans hausse de prix, ce qui est rare, notamment pour Apple et en plus dans ces périodes d'inflation. Oui. Donc, évidemment, tout n'est pas parfait et Anthony l'a très bien résumé hier dans Sortie de veille. Mais bon, je trouve que c'est pour une version 1.0, on est très bien.
Une fois de plus, Apple se contente des États-Unis pour un nouveau service financier. C'est Apple Pay Later qui permet de payer en plusieurs fois avec un crédit qui vient directement des poches d'Apple, ce qui est une première. Ça permettra peut-être d'ailleurs à Apple de se lancer à l'international parce que bah, pour l'instant, tout ça, c'est très américano-américain.
Je crois que le motto d'Apple avec Apple Pay, c'est une banque sans les problèmes propres aux banques. Ouais. Et c'est d'être disponible là où il peut y avoir de la rentabilité. Mmh. Alors, je ne sais pas s'il y aura dans Apple Pay Later, tôt ou tard, des taux d'intérêt. Mais ce sera quelque chose à suivre et qui sera effectivement très intéressant. Bon, pour l'instant, elle est quand même pénalisée parce qu'il y a de nombreux services qui sont souvent limités, soit aux États-Unis, soit à une poignée de pays. Voilà, comme le paiement par e-message qu'on attend toujours. Mais voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on. Enfin, je suis impatient de voir cette fonctionnalité à l'usage dans le monde réel et pas auprès de bêta-testeurs.
Au dernier replay, tu nous avais dit que les iPhone Pro allaient devenir si chers que tu serais plus forcément client. Mais est-ce que tu serais quand même prêt à acheter un iPhone 15 Pro avec un bouton d'action programmable? Parce que ça, bah, c'est quand même assez cool.
Qui a eu cette idée dans la rédaction? À un moment donné, il faudra qu'il se dénonce.
C'est Félix. Ah. Chut, c'est Félix.
Il pourrait aussi écrire Turbo sur l'iPhone. Je pense que ce serait bien. Non, mais déjà, s'il pouvait commencer par améliorer celui de l'Apple Watch Ultra qui est perfectible. Hein, oui, moi, dans certaines conditions, il m'est arrivé de le désactiver parce que dans des conditions pluvieuses et sous une veste, il appuyait automatiquement. Ce qui était guère pratique. Donc, j'en resterai là. Je suis d'abord pour un bouton qui fonctionne mieux sur l'Apple Watch Ultra. Et après, Apple pourra faire preuve d'ambition et remplacer nos cartes SIM par un bouton. Parce que justement, on voit ce que Apple va faire de la place gagnée par l'économie de la carte SIM.
Eh bien, merci d'avoir plongé avec nous dans les actus cette semaine. Pour ma part, je commence à économiser pour pouvoir enfin m'acheter ce fichu casque de réalité mixte et de profiter de Ted Lasso en immersion totale.
Tu penses à Apple Pay Later pour acheter ton casque.
Salut Christophe.
Bon week-end à tous.
Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se donne rendez-vous lundi matin à 6h pétante pour de futures aventures. Nicolas, Apple a sorti iOS 16.4 cette semaine avec de nouveaux emojis, mais ça, j'imagine que tu t'en fous.
Ah non, ça je m'en fous pas.